Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute.
Bonjour à tous. La Tunisie, avec le président qui place ses hommes à la tête des services de sécurité, il y a eu des nominations. Deux retiennent l'attention. Sami Ishri, qui est nommé directeur général de la Sûreté nationale, puis Chokri Rehaï, qui lui prend la tête de la garde nationale. La Tunisie, qui est toujours en proie à d'importantes difficultés économiques, les chiffres viennent de tomber. Ils concernent la balance commerciale alimentaire du pays, et ceci jusqu'à la fin du mois de juillet 2021. Les chiffres sont tout à fait inquiétants. Une aggravation de 386%, c'est-à-dire que c'est 4 fois plus grave que cela n'était le cas l'année dernière. C'est tout à fait préoccupant. Cela veut dire aussi que les capacités de couverture des importations pour la Tunisie sont toujours beaucoup plus lourdes. C'est toujours plus cher pour l'État. Et ces capacités de couverture ont également chuté drastiquement. Les produits qui sont concernés, c'est le blé dur, c'est le blé tendre, c'est l'orge ou c'est encore le maïs. C'est ce climat général de tension sociale, et bien cela amène à des mouvements de grève spontanés, des manifestations également qui vont comme ça éclore de façon tout à fait naturelle. Ça avait été le cas beaucoup au printemps de cette année 2021, et là ça vient de reprendre avec les ouvriers de la centrale laitière de Sidi Bouali. On est sur le gouvernorat de Sousse, qui ont observé un rassemblement protestataire. Ils veulent obtenir la réouverture de leur usine. Celle-ci a fermé pour des raisons de chômage technique, mais ils tiennent absolument à travailler pour pouvoir faire rentrer de l'argent, avoir un travail, faire vivre la famille. Et en signe de protestation, ils ont bloqué le passage sur la route nationale numéro 1 en brûlant des pneus. Et ceci a provoqué des perturbations. La circulation est redevenue normale. La Libye, avec cette déclaration du ministre russe des Affaires étrangères, donc une voix qui porte, une voix qui compte, c'est celle de Sergueï Lavrov, qui a déclaré à l'occasion d'une rencontre avec son homologue libyen, cela s'est passé à Moscou, que la Russie souhaite le départ de tous les combattants étrangers de Libye. Alors, ce n'est pas tout à fait la première fois que la Russie le dit, mais là c'est répété, c'est important, même s'il y a eu ces informations pour l'instant non confirmées d'un départ de 300 mercenaires syriens qui seraient à destination de la Libye et du côté des forces Haftar et surtout de la société militaire privée Wagner. Maintenant, c'est vrai aussi qu'il ne s'agit pas de mercenaires qui sont en armes, ce sont plutôt des hommes qui sont recrutés et embauchés pour occuper des places subalternes. Mais donc, c'est intéressant qu'il y ait cette répétition du propos de la part du patron de la diplomatie russe, parce que c'est vrai que du côté en face, de l'autre côté, du côté des Turcs, il n'y a absolument pas, mais alors absolument pas, cette récurrence à dire qu'il faut absolument que les forces étrangères partent, ce qui corrobore l'analyse de beaucoup, c'est que la présence russe est surtout hypothéquée sur la présence turque, que le départ de l'un engendrait le départ de l'autre. En Palestine, préparation actuellement de la grande manifestation qui aura lieu samedi. Les factions palestiniennes y appellent afin d'intensifier la tension, la pression sur Israël. Nous sommes actuellement dans un climat délétère puisqu'il y a eu ces réunions entre Israéliens et membres des factions palestiniennes concernant les pourparlers de cessez-le-feu visant à permettre Gaza de se reconstruire. Ceci après les 11 jours d'affrontements au mois de mai. Il n'y a pour l'instant pas de progrès significatif. Le point de discorde demeure cette somme financière tout à fait importante, plusieurs millions de dollars qui ont été promis par le Qatar. Pour l'instant, Israël en bloque les transferts. Le projet qatari concerne la seule centrale électrique de la bande de Gaza pour la financer, pour essayer de la reconstruire de telle façon à ce qu'elle puisse produire de l'électricité, notamment à destination des hôpitaux, et également de l'argent pour pour subvenir aux besoins de 100 000 familles qui sont atteintes par la pauvreté à Gaza et puis aussi régler les salaires des fonctionnaires du Hamas. Donc face à une situation qui est figée, il y aura cette manifestation. On peut se souvenir qu'il y a eu en début de semaine un tir de roquette lundi, et de façon assez inhabituelle. D'ailleurs, Israël n'a pas répondu, certainement pour ne pas faire monter la tension. Mais cela dit, ce premier tir qui vient après les affrontements du printemps est un signal qui indique l'exaspération palestinienne, en tout cas des habitants de Gaza. Que se passe-t-il à Kaboul? On commence à y voir un petit peu plus clair avec les talibes qui imposent le régime qui est le leur. Alors un couvre-feu a été décidé à partir de 21h, interdiction de sortir. Ainsi que dans les mosquées de Kaboul, et bien des mesures ont été prises, des numéros de téléphone des gens du quartier qui pourraient avoir besoin d'aide au dernier moment et donc ils pourraient nécessiter une aide immédiate. Donc à ce moment-là, les gens auraient le droit de sortir. Concernant les tenues vestimentaires, sur le port du jean, des garçons et des filles, pas de mesure a été décidée par les talibans. Enfin maintenant, c'est vrai aussi que les garçons et les filles à Kaboul portent quasiment pas de jeans, c'est très très rare en tout cas. Et puis à la télévision, on peut signaler ces changements de programme. Il n'y a plus de musique diffusée ni de séries télévisées qui faisaient autrefois les belles heures de l'audience afghane, même si il n'y a pas pour autant de décisions prises visant à interdire la musique. Simplement, ce sont des décisions qui ont été prises par la programmation des télévisions afghanes. Sinon, sur le versant plus politique, on se demande de quelle sera la structure qui sera adoptée par l'autorité des talibans. Est-ce qu'on va vers une choura, vers un conseil qui englobera divers parties prenantes à la vie politique talibane? Qui en sera le chef officiellement? Parce qu'en fait, on a le commandement, le chef suprême du mouvement taliban, c'est Akhundzada qui en est vraiment le grand chef suprême, mais il a trois chefs adjoints qui sont tout aussi importants et qui potentiellement peuvent devenir le chef de l'émirat islamique d'Afghanistan. Il y a Maulavi Yacoub qui est le fils du Mollah Omar, Sirajuddin Haqqani, chef du puissant réseau militant Haqqani, et puis Abdul Ghani Baradar, qui a dirigé le bureau politique des talibans à Doha. C'est l'un des membres fondateurs du groupe et surtout, c'est un homme qui a une énorme surface internationale du fait d'avoir négocié avec les Américains durant des années. Donc, c'est vraisemblablement lui qui pourrait prendre le poste, même si on a quand même, de la part des éléments qui nous parviennent de Kaboul aujourd'hui, des questions qui se posent. Est-ce que Akhundzada pourrait avoir la tentation de prendre le poste? Est-ce que Baradar, qui semble être le candidat le plus légitime, va-t-on dire, au sein de la mouvance taliban? Pour l'instant, ce sont des questions qui doivent toujours être négociées par les talibs qui tiennent donc Kaboul depuis dimanche dernier.
Ce proche Proche-Orient si loin de nous.
Direction le Liban avec cette décision qui a été annoncée par Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, qui face à la pénurie de carburant au Liban, a décidé de demander aux Iraniens de faire partir un pétrolier dont les soutes sont chargées d'or noir afin de ravitailler le Liban. Alors ceci pose un problème tout à fait majeur dans la mesure où les sanctions américaines interdisent à quiconque de commercer avec l'Iran. Cela veut donc dire que le Liban se trouverait en situation d'infraction alors que l'Amérique soutient Beyrouth, mais l'Amérique ne soutient pas le Hezbollah. De quoi s'agit-il en fait? D'un acte de provocation d'Hassan Nasrallah qui surfe sur la vague de l'après-Afghanistan sans les Américains et qui la provoque l'Amérique en disant voilà, nous avons une pénurie de carburant, nous avons un allié, c'est l'Iran, et quoi que vous en pensiez, vous Américains, nous allons obtenir du pétrole iranien au moins pour faire tourner nos voitures. Parce que c'est vrai que ça, pour le coup, il y a une vraie réalité, c'est qu'il y a de terrible pénurie de carburant au Liban. Donc l'Amérique va certainement devoir réagir. Que peut-elle faire? Comment agir sur le Hezbollah sans pour autant fragiliser le pouvoir à Beyrouth? Est-ce que ne pas agir et laisser Hassan Nasrallah prendre cette initiative sans rien dire, sans rien faire, cela semblerait impossible. C'est là un cas de figure certainement cornélien pour les Américains et les Israéliens aussi, qui ont beaucoup d'instants de tension sur les mers avec les Iraniens. Il y a des attaques qui sont attribuées aux uns et aux autres concernant notamment des navires de transport, ça peut être des navires pétroliers. On se souvient des suspicions qui ont porté à l'encontre de l'Iran qui aurait provoqué une marée noire sur les côtes israéliennes. Le fait est, c'est qu'il y a énormément d'incertitudes. Le Hezbollah certifie que le bateau, que le pétrolier est parti. Il a quitté les côtes iraniennes. Quand arrivera-t-il au Liban? On l'ignore. C'est un mystère pour l'instant. Mais a priori, il va se passer beaucoup de choses dans les prochaines heures et les prochains jours autour de ce pétrolier. Ou alors, s'il ne se passe rien, cela voudrait dire que l'Amérique abandonne et cela semble fort peu vraisemblable.
Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.